Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Graphite 94.9 et nous nous retrouvons pour notre troisième émission des Échos de l'innovation. Nous sommes un groupe de 8 étudiants de l'Université de technologie de Compiègne et nous réalisons cette émission dans le cadre d'un projet en sciences et débat public sur le thème de l'innovation. Notre émission du jour portera sur le fait d'innover dans les transports et l'innovation des transports à travers le temps. Je serai accompagné lors de cette émission de Théa et Élise. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Et vous allez nous parler aujourd'hui de
On va vous faire un petit état des transports dans l'histoire, donc comment ils ont évolué, et vous parler aussi des grands échecs de l'innovation dans les transports.
C'est ça.
Ok, parfait. Nous allons aussi retrouver Justine. Bonjour Justine.
Bonjour.
Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter un petit quiz afin de pouvoir voir un petit peu les consommations suite au transport.
Ok, parfait. Nous retrouvons aussi Théa. Théa, bonjour à vous.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, moi, je vais parler principalement des mobilités douces, donc vélo et marche à pied.
Ok, très bien. Rémi et Melchior, bonjour à vous.
Bonjour, nous on va vous parler de la voiture individuelle avec qu'est-ce que c'est aujourd'hui le bilan qu'on peut en faire et qu'est-ce que ce serait les différentes alternatives avec notamment la voiture électrique, la voiture hydrogène, etc.
Très bien. Moi je vais vous parler un petit peu des transports dans la ville de demain et nous allons aussi accueillir Paul. Bonjour Paul.
Bonjour David, bonjour à tous. Moi aujourd'hui, je vais vous parler, on se posera la question, est-ce que l'hyperloop peut-il être une invention viable dans le transport du futur ?
Ok, très bien. Alors tout de suite, pour commencer, retrouvons Élise et Théa.
Alors, la problématique du jour est la suivante. La problématique du jour est la suivante. Quel avenir pour les transports ? Alors tout d'abord, il est important pour la suite de notre émission de bien différencier les termes transport et mobilité. Donc en effet, les transports, le transport, c'est le déplacement d'objets, de marchandises ou d'individus d'un endroit à un autre, avec également les modes de transport qui incluent l'aviation, les chemins de fer, les transports routiers, mais aussi les transports maritimes. Alors que la mobilité, elle, peut être définie comme le rapport social au changement de lieu, c'est-à-dire comme l'ensemble des actions qui concourent au déplacement des personnes et des objets matériels. Et c'est dans ce cadre très large que les transports sont des systèmes techniques directement dédiés à ces déplacements. Donc, notre problématique, qui est alors quel avenir pour les transports, ciblera principalement ces systèmes techniques. Alors, avant de vous parler d'avenir, il est important de rappeler comment les transports sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. En effet, les transports connaissent une véritable métamorphose au XIXe siècle, mais l'innovation dans les transports ne date pas d'hier. En effet, dès la préhistoire, l'homme a cherché à se déplacer, et dans l'idée d'aller toujours plus loin et toujours plus vite, il a développé des moyens de transport toujours plus performants. Alors, je vais vous faire une petite chronologie de ces inventions. Donc cela commence dès l'époque de la préhistoire, c'est-à-dire en moins 450 000 avant Jésus-Christ, donc avec l'invention de premiers brancards donc, qui permettaient de transporter les proies récupérées, enfin chassées, et c'est-à-dire donc, pour porter des charges plus lourdes et donc avec le moins d'efforts possible. Ensuite, il y a eu l'invention de pirogues, donc c'était creusé dans des troncs, donc dans le but de traverser des rivières par exemple. Ensuite, durant l'Antiquité, donc vers moins 2200 avant Jésus-Christ, il y a eu l'invention des fameuses roues, donc qui annoncent un grand progrès dans l'histoire des transports et qui donc donne naissance à plusieurs modes de transport comme les carrosses ou bien les chars. Et bien sûr, s'en suivent par la suite les bateaux, les montgolfières, la locomotive à vapeur, bien sûr les automobiles, donc avec les moteurs donc à pétrole, et les avions, et bien sûr la conquête de l'espace. Et donc cette chronologie d'invention illustre bien une phrase de D'Alembert qui disait « L'esprit qui invente est toujours mécontent de ses progrès parce qu'il voit au-delà ». Et voilà, je vous laisse sur cette citation. Maintenant, à toi, Élise.
Alors moi, je vais vous faire un petit état de, du coup, de, des d'une des inventions qui n'a pas fonctionné dans le domaine des transports. Donc un grand échec. Alors c'est l'homme qui cherche toujours à aller plus loin en innovant toujours plus. Mais toutes ces inventions n'ont pas toujours été couronnées de succès. En effet, je peux vous présenter un exemple concret, celui du Concorde, le premier avion supersonique. Développé dans les années 60 par les ingénieurs français et britanniques, le Concorde fut un joyau technologique, mais également un échec commercial. En 2021, il faut 8h et 45 minutes pour relier Paris et New York en avion. À la fin des années 1970, il n'en fallait que 3h30. Un exploit ? Presque. Un Concorde. Cet avion supersonique effectue son premier vol en 1969. Immédiatement après son lancement, le Concorde, que l'on surnommera plus tard le Grand Oiseau, fascine, car il est le résultat de la combinaison des dernières innovations techniques de l'aviation. Fuselage à géométrie variable, turboréacteur, commande de vol intégralement électrique et poste de pilotage automatique, ce qui est une première dans le domaine de l'aviation civile. Il est capable de grandes prouesses techniques. Cependant, son hégémonie ne dure pas et peu après sa mise en service, Concorde est rapidement critiqué pour sa faible valeur commerciale, ses grandes dépenses en kérosène au moment de la crise pétrolière et sa nuisance sonore. De plus, ce dernier a le défaut de ne pas être adapté pour affronter les grands changements de l'aviation du XXIe siècle. En effet, l'heure est au transport de masse et des compagnies comme Boeing et des avions comme l'A380 avec ses 800 places ne tardent pas à s'imposer dans le marché de l'aviation. Le Concorde consomme également énormément de kérosène, alors que les compagnies aériennes cherchent à effectuer une réduction drastique de la consommation de carburant. Le crash d'un Concorde Air France le 25 juillet 2000 accélère sa mise à la retraite. Cette tragédie précipite la fin de la fabuleuse épopée du Concorde, un avion en avance sur son temps et toujours sans successeur déclaré pour prendre sa relève. Cependant, le vol supersonique n'est pas enterré et stimule toujours les neurones des chercheurs.
Merci pour ce point historique et pour ces petits exemples d'échecs dans l'innovation. Et maintenant, un peu de musique avec Joe le Taxi de Vanessa Paradis.
Bienvenue, c'est Joe.
Toujours
Et c'était Vanessa Paradis, le titre Joe le taxi. Vous êtes sur Graphite 94.9. Et maintenant, retrouvons Justine qui nous a organisé un petit quiz. Bonjour Justine, rebonjour même, et c'est à vous.
Merci. Alors, donc, du coup, nous avons pu voir que la volonté de se transporter a toujours été un problème majeur dans notre société. Ainsi, l'homme n'a pas cessé de chercher à innover afin de répondre au mieux à ce besoin. Cependant, nous avons pris conscience des limites écologiques à cette innovation. Dans cette quête permanente à l'innovation dans les transports, nous n'avons pas oublié de prendre en compte un critère. N'avons-nous pas oublié de prendre en compte un critère fondamental pour se rendre compte des problèmes écologiques dus au transport? Nous allons donc nous intéresser aux consommations grâce à un petit quiz. Alors tout d'abord, quelle est la surconsommation de carburant lors du premier kilomètre parcouru par votre véhicule, d'après vous? Donc, est-ce que ce serait 25%, 50% ou 75%?
C'est-à-dire que c'est y a une surconsommation pour les juste le début des kilomètres? Alors là, comme ça, je vois pas bien. Je savais même pas qu'il y avait forcément une surconsommation pour le démarrage d'une voiture.
Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle consomme le plus.
Ouais. Okay, bah, perso, okay. J'ai révisé le code il y a pas longtemps. Je crois que c'est 25%.
25%, je suis pas trop sûre. Je ne sais pas précisément, du coup.
Eh bien, c'est 50%. En effet, cette surconsommation, elle est de 25% lors du deuxième kilomètre. Par conséquent, il est préférable de prendre un vélo ou d'aller à pied pour effectuer des déplacements inférieurs à 2 kilomètres. C'est meilleur pour l'environnement, pour la santé et pour le porte-monnaie. Ensuite, donc, avez-vous une idée pour les marchandises, quel serait le mode de transport le plus économe, en carburant, entre le train, le camion ou la péniche?
Alors ça, pour le coup, train, bateau, péniche, j'aurais tendance à dire le train. On met souvent en avant le ferroviaire, à la fois dans les déplacements et à la fois pour le transport de marchandises, j'imagine. Du coup, moi, je partirais plus sur le train, le ferroviaire.
Mm-hmm. Ouais, je pense le train aussi.
Oui, de même.
Est-ce que c'est des pièges ?
Non, c'est la péniche qui est la plus économe avec 5 litres de carburant. Elle transporte une tonne de marchandises sur 500 km, alors que le train le fait sur 330 km et un camion sur seulement 80 km. Donc, par la suite, une autre question. Donc, si vous transportez des objets volumineux pour partir en vacances, d'après vous, il est préférable de les installer sur la galerie de votre véhicule ou bien de les tracter dans une remorque?
Alors ça, la remorque ajoute du poids, mais je sais que les galeries, ça augmente souvent la consommation, même quand c'est à vide. Du coup, j'imagine, pour l'aérodynamisme, c'est peut-être mieux d'avoir la voiture, garder la même forme. Ouais. Et donc, je partirai plus sur les galeries. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais les galeries consomment plus. Et avoir une remorque, c'est plus avantageux pour diminuer la consommation.
Pour moi, avec une galerie, ça rajoute des frottements avec l'air, tout ça. Donc pour moi, je dirais plus la remorque. Hein.
La remorque
et bien... Oui, la remorque qui va consommer moins.
Ouais.
Eh bien, c'est ça. Et en effet, c'est la remorque. Si vous transportez des objets volumineux sur votre galerie, vous aurez une prise au vent nettement supérieure à celle d'une remorque tractée. Par conséquent, votre consommation de carburant et la pollution engendrée sont augmentées. Une autre question. Sur une année, la surconsommation moyenne en carburant des véhicules climatisés par rapport à ceux qui ne le sont pas est de 1%, 3%, ou bien 5% d'après vous?
Moi, déjà, j'aurais dit beaucoup plus de 10%. J'aurais dit entre 10 et 20%. Du coup, je ne suis pas sûr de ce que je dirais. Je partirais sur 5%, du coup, vu que c'est le plus élevé de tes propositions.
Ouais.
C'est une moyenne sur l'année, en fait c'est...
Oui, c'est ça.
C'est pas en fait en activant sur une année, ou sans, ouais. Sur une année, c'est-à-dire en moyenne. Ouais, bah ouais. C'est vrai que je serais parti sur des chiffres assez grands aussi, mais pour le coup, là, j'ai pas d'ordre de grandeur, c'est pas forcément quelque chose qui me parle. J'aurais plus dit, ça augmente de 20 ou 30% quand on l'active par rapport à une autre voiture, en cas de forte chaleur. Du coup, je sais pas exactement.
Oui, bah on l'active combien de mois dans l'année?
Ouais, on l'active que quelques mois, du coup, ouais, c'est peut-être pas si énorme, mais. Ouais, peut-être quand même 5%.
Hein. Ouais. Eh bien oui, c'est 5%. Si votre véhicule, il est climatisé, il va consommer environ 5% de plus que le même modèle non climatisé. Donc à titre indicatif, en ville et en moyenne, un véhicule à essence consomme 9 litres pour 100 km sans clim. Et 11,8 litres pour 100 km avec la climatisation. Un véhicule diesel, quant à lui, consomme 7 litres pour 100 km sans climatisation et 9,5 litres pour 100 km avec climatisation. La climatisation propose parfois pour 1 euro de plus à l'achat des véhicules peut donc s'avérer une option beaucoup plus coûteuse à la longue. Ensuite, donc en 2050, savez-vous combien de véhicules y aura-t-il dans le monde ? Donc entre 800 millions, 1,5 million et 3 millions.
Millions. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien il y en a. Donc...
Mais surtout, c'est millions, c'est milliards plutôt.
Non, c'est millions.
Millions de voitures ?
Des véhicules
de parc automobile.
Ouais. De parc automobile ? Je sais pas définir un parc automobile.
C'est là où les voitures se garent, non?
Le parc automobile, pour moi, c'est la somme de toutes les voitures.
Et pour moi aussi. Ouais. Je pense que c'est plutôt en milliards, effectivement.
Du coup, le parc, je sais pas actuellement de combien il est.
Ouais, moi non plus.
J'ai pas.
Tu peux redire tes chiffres? Je me sens plus.
800. Milliards du coup 1,5 milliard
800 millions, 1,5 milliard
et
3 milliards ça serait plus une logique comme ça par ordre de grandeur.
Oui c'est ça.
Et pour le coup
moi je dis 3 milliards
ouais, 3 milliards ça fait le all-in. Non mais c'est vrai que ouais, 3 milliards
ça paraît cohérent
mais ça paraît faire beaucoup pourrait amener quelques problèmes 3 milliards d'automobiles.
Mais il y en a qui ont plusieurs voitures aussi.
C'est vrai mais pas partout dans le monde. Faut voir.
Pas partout aussi.
Eh bien oui, c'est 3 milliards. Une personne sur 3 aura une voiture si rien ne change en 2050. Pour le quiz, donc c'est fini. Nous avons donc pu voir que les transports ont un énorme impact sur l'écologie. Aujourd'hui, les problèmes environnementaux sont un sujet très préoccupant. Ainsi, les transports étant le premier émetteur de gaz à effet de serre, nous pourrions nous demander comment faire en sorte de nous déplacer, mais de manière plus éco-responsable. Pour ce faire, nous allons vous proposer plusieurs rubriques qui vont permettre de répondre à ces problèmes environnementaux. Si les problèmes écologiques liés à la mobilité vous intéressent, nous vous proposerons quelques ouvrages afin de vous instruire dessus à la fin de l'émission.
Et merci à Justine pour ces précisions. Du coup, on peut voir que la voiture, c'était principalement centré sur la consommation de voitures, sur l'évolution du parc. On est sur des tendances de croissance, surtout des usages qu'on peut avoir qui sont assez émetteurs de carbone, comme la clim et d'autres points. Mais on peut s'intéresser maintenant aux mobilités douces et justement, qu'est-ce qui peut remplacer une première part de solution à l'utilisation de la voiture. Et nous verrons ensuite un peu plus dans le détail qu'est-ce qui peut être amélioré au sein même de la voiture, sans penser aux alternatives. Et accueillons maintenant Théa qui va nous parler justement des mobilités douces.
Oui, bon, rebonjour. Je souhaitais parler donc de la thématique des mobilités douces et notamment savoir s'il y avait eu un changement d'habitude par les usagers qui était liée au Covid-19. Donc la question que l'on peut se poser, c'est que révèle la crise du Covid-19 sur les comportements de mobilité des Français ? Alors il est vrai que la pandémie, elle a occasionné une forte restriction des libertés de déplacement durant le confinement. Et elle a donc confirmé la place centrale qu'occupe la mobilité dans son acception systémique, englobant tous les besoins, autant les besoins que les pratiques de déplacement. Donc il est intéressant de se pencher sur les différents usages en termes de mobilité. J'ai trouvé une étude publiée donc, par l'école de management de Grenoble qui retrace donc, les différentes pratiques de mobilité des habitants de la métropole grenobloise durant la période donc, de confinement. Et, la question posée était la suivante. Les habitants vont-ils vers un mode de déplacement plus doux, donc, c'est-à-dire utiliser le vélo ou la marche à pied, contrairement à la voiture individuelle ou les transports en commun. Cette étude nous dit donc qu'avant le confinement, donc les personnes interrogées utilisaient à proportion égale donc les modes de transport doux, les transports en commun ou encore la voiture, leur véhicule personnel pour établir un déplacement quotidien, donc c'est-à-dire d'aller de chez eux à leur travail ou autre. Cependant, post-confinement, il y a environ 60% donc des interrogés qui choisissent maintenant la voiture individuelle, contre environ un peu moins de 40% des modes de transport doux et seulement 1% pour les transports en commun. Là, il faut faire attention également, car cette enquête a été menée donc, courant la dernière semaine du confinement, ce qui remontre ainsi un rejet un peu massif des transports en commun qui est du coup à étudier avec prudence. De ce fait, la crise ravive des craintes vis-à-vis donc, des transports collectifs au niveau sûrement de la contagion ou des gens qui se trouvent à l'intérieur. Sinon, personnellement, je me suis rendu compte, donc pour avoir étudié 2 ans donc, à Grenoble, que moi aussi, j'ai mis de côté les transports en commun à l'après donc, la période de Covid-19, donc après le confinement. C'était un peu inconsciemment, mais à la fois, je me rends compte que c'était plus pratique pour moi donc, d'utiliser mon vélo ou la marche, parce que je faisais des petits déplacements au lieu d'utiliser le tramway, par exemple. Et au final, je me suis rendu compte également que beaucoup de personnes se sont mis plus au vélo pendant cette période, que ce soit mes amis ou des personnes proches. Et les tramways se faisaient d'ailleurs plus vides. Du coup, je voulais aussi savoir votre ressenti par rapport donc à la question suivante. Est-ce que vous avez évité, par exemple, les transports en commun ou au contraire, les avez encore plus utilisés parce que peut-être que plus de monde voulait moins les utiliser à cause de la période Covid-19, la contagion, le fait que les transports n'étaient peut-être pas assez nettoyés ou encore d'autres manières.
Moi, je peux répondre à ça. Je n'ai pas vraiment le même avis que toi et je n'ai pas vraiment eu le même déclic sur ça. Moi, juste après d'avoir été confiné en France, un peu comme tout le monde, à tort, hein, j'ai eu un réel envie de voyager, un réel envie de voir du pays, parce que j'en avais marre de voir ma chambre. Et donc, du coup, je pense que j'ai jamais autant pris l'avion, j'ai jamais autant voyagé de cette manière. Et avec du recul, je sais que c'était pas forcément une bonne chose et je me suis pas forcément rendu compte quand je l'ai fait à ce moment-là, mais moi, j'ai plutôt eu l'effet inverse, quoi.
Et du coup, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait autant de monde qui voyageait avec toi ou c'était quand même...
Ah non, c'était vide. C'était vide, hein. C'était vide. On a fait notre Erasmus vraiment juste pendant la crise du Covid. Et les aéroports étaient vides. Ça, c'était assez alarmant aussi. Les prix étaient vraiment bas et il n'y avait personne dans les avions. C'était forcément à perte. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais... ouais, avec du recul, c'était vraiment... Il y avait vraiment moins de personnes.
Mais tout ça dû à la crainte de peut-être une contagion plus rapide ou...
Ouais, et aussi peut-être une réflexion qui a pu être rendue possible. Les gens sont restés chez eux, donc du coup, ils sont peut-être rendus compte que la planète, c'était important, qu'à tout moment, ça pouvait péter.
Un enjeu écologique, en fait, ouais, au final.
Ça. Je pense que c'est plus ça.
Ok. Est-ce que quelqu'un veut donner encore son avis ?
Alors pour le coup, J'étais déjà dans une démarche de moins prendre l'avion. Et en soi, une fois le déconfinement arrivé, j'ai pas forcément changé mes habitudes d'utilisation des transports en commun. Je les ai peut-être un peu plus couplés avec l'utilisation du vélo. Étant sur Paris, c'est assez simple d'utiliser les services de vélo partagés, de se déplacer en transport. Du coup, ça n'a pas réellement changé, mais j'ai observé un certain changement. L'utilisation des pistes cyclables qui a énormément augmenté, où on a un problème d'infrastructure en région parisienne, en tout cas. Et après, sur les transports, au début, moins de monde. Ça, c'est toujours appréciable. Mais assez vite, un retour à la normale où la saturation des transports est revenue, on va dire. La vie a repris son cours, du moins dans les transports et là où j'habite, à l'est de Paris et sur Paris. Ça, pour moi, j'ai pas essayé de faire un effet rebond et de rattraper le temps perdu, mais de peut-être faire un peu plus de vélo.
Ok, très bien. Merci, David. Pour finir, je trouve aussi que les agglomérations, donc, que ce soit les villes ou les particuliers, donc comme la SNCF ou autre, il y a eu un véritable enjeu d'un point de vue économique comme écologique à maintenir donc, les transports en commun. Mais cependant, pour que ça reste quand même une grande alternative à la voiture individuelle. Donc je vais vous laisser sur cette partie-là.
Du coup, on a pu apprendre que quelquefois, même l'enjeu écologique... les changements vont pas forcément. Il n'y a pas forcément des changements de mentalité qui s'opèrent, mais au contraire, avec des marqueurs un peu plus grands, comme une pandémie, quelque chose comme ça, on peut changer ou au contraire revenir comme avant ou revenir plus fort. Et plus fort, quelquefois, ça veut dire plus consommer et c'est pas forcément ce qui est attendu. Et maintenant, pour. Amener un peu de musicalité, le titre Manhattan Kaboul de Renaud et d'Axel Red.
Petit portoricain, bien intégré quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Solo gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam de tyran.
Cela ont-ils jamais lu le Coran?
Devenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile?
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Cher à canon, deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
inconnus, deux anonymes mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
C'était Manhattan Kabul de Renaud et Axel Red. Et maintenant, pour continuer un peu sur les mobilités, sur les moyens de transport, on s'est intéressé bien évidemment à mobilité douce, mais aussi il y a la place de la voiture individuelle qui ne cesse d'évoluer et qui ne cesse d'être repensée pour dans le futur. Et c'est pour ça, Melchior et Rémi vont nous en parler. À vous, Melchior.
Alors oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la voiture individuel. Et je vais vous faire tout d'abord un petit état des lieux sur l'utilisation de cette voiture de manière individuelle et comment elle va-t-elle évoluer dans l'utilisation qu'on en aura quotidiennement. Donc après le Covid, on a tous pu remarquer qu'il y a eu de plus en plus de citadins qui ont changé de moyen de transport et particulièrement pour le vélo ou les modes de transport partagés comme les trottinettes, les scooters et les voitures électriques. Mais la voiture reste toujours primordiale et c'est une grande partie de la population qui l'utilise, principalement pour des raisons professionnelles. Et donc, on a quand même besoin de faire évoluer cette voiture individuelle.
Alors, vous le savez, historiquement, la voiture, elle fonctionne au moteur thermique. Moi, je vais vous faire un petit bilan sur ce que l'on reproche au moteur thermique aujourd'hui. Donc, en trois gros points, tout d'abord, c'est un très mauvais rendement qui est dû aux pertes thermiques. On a une efficacité qui est maximale de 25% pour un moteur idéal, donc c'est pas énorme. Et c'est surtout un problème lorsque le moteur il est froid, parce que la chaleur qui est produite à ce moment-là, elle sert juste à chauffer le bloc moteur. Ensuite, Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que au fil de l'histoire, les technologies, elles ont évolué, mais on n'a pas réussi à diminuer la consommation des véhicules, parce que c'est des véhicules qui ont été toujours plus lourds, qui ont nécessité toujours plus de choses, et en fait, on a créé de nouveaux besoins, comme la clim, comme l'aide à la conduite, et en fait, on pourrait aujourd'hui faire des véhicules qui consomment beaucoup moins, mais nos petits besoins nous oblige à avoir une consommation assez importante. Ce qu'on reproche aujourd'hui, le plus gros point, c'est que la voiture individuelle, c'est une des plus grandes sources de gaz à effet de serre. Donc, on parle d'empreinte carbone, qui mesure précisément l'impact sur l'environnement, ici la voiture. En gros, un ménage français, il rejetterait en moyenne environ 16 tonnes de CO2 par an. Donc c'est énorme. Si on regarde, les transports, ils sont responsables à 29% de la production de gaz à effet de serre et plus de la moitié de ces émissions, ça vient de la voiture individuelle. Et à noter aussi que l'impact d'une voiture diesel, elle n'est pas forcément la même que celui d'une voiture essence. En diesel, on rejette 0,251 kg de CO2 par kilomètre et en essence, on est à plus. On est à 0,259 kilo. Donc déjà, les ingénieurs, ils ont travaillé sur comment diminuer ces impacts et ils ont cherché des solutions pour améliorer le moteur thermique. Donc déjà, en améliorant le rendement, comme on en a parlé avant, avec des solutions qui sont plus optimisées, travaillant aussi sur l'isolation, les matériaux, etc. Ils ont aussi ajouté des composants et amélioré certains composants que vous connaissez peut-être. On peut par exemple parler du pot catalytique qui a le rôle de filtrer les gaz d'échappement qui sont à effet de serre, par exemple le monoxyde de carbone, les hydrocarbures ou les oxydes d'azote. Il y a aussi le filtre à particules qui est situé juste derrière, qui filtre les particules fines. On a aussi une invention qui est assez intéressante, c'est la vanne EGR, qui permet de renvoyer une partie des gaz d'échappement qui sont partiellement brûlés directement dans l'admission du moteur. Donc en fait, comme vous le comprenez, on rejette plus ces gaz d'échappement tout de suite, on peut les utiliser plusieurs fois. Et on peut aussi parler du filtre AdBlue, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pour les moteurs diesel, c'est un mélange d'eau déminéralisée et de l'urée pour transformer le dioxyde d'azote en azote et en eau. Mais le problème, c'est que ces dispositifs, ils sont innovants, mais ils sont efficaces qu'à une haute température. En fait, pour la plupart pour ce qui est filtre, pour ce qui est vanne, etc., il y a besoin d'une certaine température pour qu'ils soient fonctionnels de manière optimale. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour cette raison qu'en fait, une voiture, elle consomme beaucoup sur les premiers kilomètres. Et c'est pour ça qu'en fait, une voiture individuelle, pour faire des petits trajets, c'est vraiment là qu'on consomme le plus et c'est vraiment là que l'impact est le plus important. Une des autres solutions, ce serait le biocarburant. Utiliser des biocarburants, donc d'origine non fossile, ça a des propriétés qui sont favorables à l'amélioration du rendement des moteurs. Leur processus de production, il est plus durable. Donc c'est une combustion à base d'huile végétale. Et donc ce serait juste... on pourrait adapter ça, on pourrait mettre des biocarburants dans toutes nos voitures, mais ça nécessiterait un recalibrage de l'injection et de l'allumage. Et il existe aussi d'autres alternatives au moteur thermique, avec notamment le moteur électrique dont je laisserai Melchior vous parler.
Juste avant, vous avez parlé justement de biocarburant, mais biocarburant, quelquefois, ça va utiliser des terres. Il faut utiliser des terres pour produire justement ces biocarburants. Ça ne pose pas justement un autre problème? Ça ne déplace pas le problème?
C'est le problème, c'est que le biocarburant, c'est une origine non fossile, donc c'est possiblement renouvelable, mais c'est un peu le serpent qui se mange la queue, il y a plein de problèmes, c'est comme dans plein de mots de la société actuelle, on remet la faute ailleurs, effectivement, il faut cultiver sur des champs, etc., ces végétaux, mais donc c'est moins mauvais pour la planète d'un point de vue direct, il y a moins de gaz à effet de serre qui sont renvoyés. Mais effectivement, pour déforester, etc., c'est moins bien. C'est une solution qui n'est pas non plus viable. Et c'est pour ça qu'on a d'autres alternatives qui sont sur lesquelles on travaille aujourd'hui, avec notamment le moteur électrique et le moteur hydrogène, donc, dont on va vous parler maintenant.
Parlons de ces deux moteurs, alors.
Alors moi, je vais vous présenter le moteur électrique. Donc le moteur électrique, en fait, c'est la fin des cylindres, des pistons et des gaz à échappement. Donc c'est assez vendeur. Donc c'est le moteur d'une voiture électrique en fait est construit sur la base d'un ensemble de pièces qui est conçu pour convertir de l'électricité en énergie mécanique. Donc tout ça grâce à la création d'un champ magnétique. Et donc en fait le moteur d'une voiture électrique fonctionne grâce à un procédé physique qui a été mis en point il y a très longtemps. Enfin, très longtemps, au 19e siècle. Et donc, ce procédé consiste à utiliser le courant pour créer un champ magnétique sur une partie fixe d'une machine, de la machine qui s'appelle le stator, et qui va permettre de faire déplacer une pièce qui, elle, tourne, qui s'appelle le rotor. On va s'attarder aux avantages et aux inconvénients de ce système de voiture électrique. Donc tout d'abord, les avantages. Le premier avantage qu'on peut avoir en tête, c'est le silence et le confort de conduite, parce qu'effectivement, le moteur électrique est extrêmement silencieux par rapport à un moteur thermique. Donc ça, c'est un avantage indéniable, en particulier pour les villes, parce qu'il y a énormément de pollution sonore recraché par les voitures, mais aussi par les motos et les scooters. Un autre avantage de la voiture électrique, c'est la fiabilité du véhicule, car il y a beaucoup, beaucoup moins de pièces, et particulièrement de pièces d'usure, parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, on n'a pas besoin de remplacer de courroies, pas de bougies, etc. Donc ce qui amène au point suivant, qui est la facilité d'entretien et de maintenance. Parce que en fait, la seule maintenance qu'on va avoir à faire, c'est tous les 8 à 10 ans, d'utilisation, donc c'est équivalent entre 1000 et 1500 cycles de recharge. Il va falloir changer cette batterie. Un autre avantage aussi, c'est la réduction du coup, des émissions d'effet de gaz, de gaz à effet de serre, pardon. Parce qu'en fait, la voiture électrique n'émet pas d'émissions de gaz CO2 et de fumée d'hydrocarbures. Et elle génère presque pas de particules fines. Alors, le presque, parce qu'en fait, il y a quand même des particules libérées par les pneus, les freins, et donc, étant donné que la voiture électrique est quand même beaucoup plus lourde qu'une voiture thermique, ces deux parties et ces deux composants sont beaucoup plus sollicités et utilisés. Et donc, cette voiture n'est pas propre à 100%, mais elle est beaucoup plus propre qu'une voiture thermique. Maintenant, passons aux inconvénients. Donc, il y a évidemment le prix d'achat qui est situé autour des 30 000 euros, ce qui est assez élevé. Il y a l'impact environnemental des batteries, parce qu'il s'agit de batteries lithium. Et en fait, ce sont des métaux rares qui sont assez courtisés aujourd'hui. Et donc, l'extraction de ces métaux sont éthiquement très, très peu correctes en fonction des sites d'exploitation, mais aussi écologiquement, il y a l'utilisation de très, très grandes quantités d'eau, et parfois on a besoin de l'utiliser parce que ça se trouve dans des endroits du globe avec des très grandes sécheresses.
Et on a aussi l'utilisation de produits chimiques, de nombreux produits chimiques pour ce genre d'extraction, je crois.
Effectivement, il y a énormément de produits chimiques utilisés pour l'extraction de tous ces métaux rares. Et donc cela pose un gros problème. Après, il y a d'autres problèmes d'ordre un peu plus d'organisation et de développement de ce type de voiture, par rapport à la disponibilité des bornes dans l'espace public. Effectivement, aujourd'hui, il y en a très peu, mais on tend à en avoir beaucoup plus. Et le côté intéressant de l'électrique, c'est le rétrofit. Donc le rétrofit, c'est d'utiliser une vieille voiture thermique et de la mettre en électrique pour réduire les gaz échappés. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur le rétrofit ?
Pas sur le rétrofit, mais je vais parler de la voiture hydrogène.
Alors, pour rapidement finir sur le rétrofit, c'est quelque chose d'assez assez sympa, qui permet de transformer toutes les voitures électriques, thermiques en voitures électriques. Donc, si vous voulez plus d'informations, il y a une bonne dizaine de marques françaises qui font ça aujourd'hui. Donc, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil sur Internet.
Alors moi, je vais vous parler du moteur hydrogène. Hein. Vous avez dû l'entendre, en entendre parler. On évoque souvent ça quand on entend les inconvénients des voitures électriques. Parce qu'effectivement, on a l'impression que ça, c'est quelque chose où il n'y a pas ce problème de batterie, etc. Donc effectivement, l'hydrogène, c'est un élément qui est présent partout autour de nous, notamment dans l'eau. C'est une des meilleures sources d'énergie renouvelable possible. Et effectivement, il ne produit pas de CO2 polluant quand il est rejeté. Il ne produit que de l'eau. Parce que c'est de l'hydrogène avec de l'oxygène, ça nous donne de l'eau, du H2O. Et ça a effectivement de nombreux atouts. Hein. C'est, comme on l'a dit, une énergie renouvelable. Ça permet de rouler sans émission. C'est une voiture à pile à combustible. Donc c'est une voiture, en fait, c'est comme une voiture électrique, sauf que c'est une pile à combustible avec à l'intérieur de l'hydrogène. Donc ça a les mêmes avantages que la conduite électrique, hein, douceur, silence. En plus, là, on peut rajouter l'autonomie et la rapidité du plein, qui prend que quelques minutes. Quelques minutes suffisent, hein, pour embarquer l'hydrogène dans les réservoirs. Par contre, les inconvénients qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément accès à ce genre de voiture, c'est un vrai problème de réseau. Hein. Les stations, elles restent très limitées en nombre et en usage. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est pas vraiment un carburant grand public. Le problème majeur, c'est le, c'est le bilan de CO2 qui est vraiment important, parce qu'en fait ça dépend du carburant utilisé, hein, mais la plupart des techniques utilisées pour produire de l'hydrogène sont dépendantes des énergies fossiles, hein, soit du méthane, soit du pétrole, soit d'agrocarburants. Mais sinon, on peut aussi utiliser l'électrolyse. C'est pour ça que l'État français il a annoncé investir 7 milliards d'euros dans une filière d'hydrogène renouvelable pour justement travailler sur comment extraire cet hydrogène. D'autres inconvénients qu'on peut surligner, c'est par exemple la puissance qui est limitée et le fait que ça peut être inflammable. Hein, l'hydrogène, il demande des précautions très, très particulières pour être manipulé. Mais au-delà de ça, au-delà de ces deux moteurs hydrogène et électrique qui peuvent être nos solutions de demain, il y a quand même des alternatives qui sont moins chères et plus éthiques que je vous conseille, hein, comme la voiture partagée, par exemple, c'était la Blue Car à Paris, ou le covoiturage avec Blablacar, etc., etc. Voilà.
Du coup, on se rend compte qu'il y a différents types d'innovations dans la voiture, mais à chaque fois, ces voitures sont, sur la plupart du temps, individuelles. Et c'est là où on va s'intéresser un peu plus au transport en commun. Alors, pour cette partie, étant un étudiant en génie urbain, je voulais plutôt m'intéresser à l'intégration justement des transports, des mobilités directement dans la ville. Alors, on a vu que la voiture avait une place centrale dans nos déplacements et que toute la ville, en fait, et même plus largement que la ville, ont été pensées autour de la voiture jusque dans les années 70-80 et les premières crises pétrolières. Nous avons besoin actuellement de cohérence et de lien entre les différents moyens de transport et notamment d'intégrer les transports en commun et les mobilités douces dans les mêmes pôles et créer justement des pôles d'échange, des pôles de transport autour de ça et pas plus uniquement autour des aéroports et de la voiture. Pour cela, je voulais m'intéresser justement au cas du Grand Paris Express. Grand Paris Express qui est un projet de 4 nouvelles lignes de métro, un métro périphérique automatique à Paris qui peut desservir pas réellement Paris mais plus la proche et la moyenne couronne. Et pour cela, l'objectif n'est pas juste de proposer de la mobilité aux usagers, mais il y a aussi un objectif social qui est de désenclaver des quartiers, des villes, des départements et de rendre plus accessibles les bassins d'emploi. On peut voir que justement il y a des communes qui sont très enclavées avec peu de possibilités de transport en commun ou tout simplement des transports qui ne sont pas efficaces. Et l'objectif est de ramener 90% des Franciliens à proximité d'une gare, à moins de 2 km d'une gare plus précisément. C'est ça l'objectif du Grand Paris. Il y a aussi un aspect urbain où on pense l'aménagement. On pense l'aménagement urbain en même temps que la construction de nos infrastructures de transport. Ou une gare, on sait que ça permet d'amener du monde. Qu'est-ce qu'on fait ? On construit des logements autour. On peut proposer aussi des services, des bureaux. Même des espaces publics végétalisés, des parcs. En fait, on amène autour des moyens de transport, là où il y a le plus de monde, ce dont on a besoin. Il y a un aspect environnemental, proposer des alternatives à la voiture. Il y a aussi un aspect économique, où il y a une création d'emplois. Du coup, penser la mobilité de nos jours, ce n'est plus seulement penser à un moyen de transport. C'est penser aussi à l'aménagement. Sauf que ces aménagements-là, ils ont un coût et ils font intervenir différents acteurs. Du coup, on n'arrive pas toujours à développer ce genre de projet. À titre d'exemple, justement, le Grand Paris a été réévalué à 33,6 milliards d'investissements, alors qu'au début, il n'était un peu plus d'une vingtaine. Du coup, ça a des conséquences. Quand on pense un aménagement, on le pense à long terme et c'est plus difficile à mettre en place, justement. Et la mobilité ne concerne plus aussi uniquement les transports. Oui, uniquement les transports, mais aussi l'aménagement urbain, les télécommunications, où on veut des villes de plus en plus intelligentes, avec toujours plus d'échanges, de données entre les utilisateurs, les usagers plutôt, et entre les moyens de transport. Du coup, on veut les villes intelligentes, les smart cities, on en parle beaucoup dans le domaine de l'ingénierie. Mais quelquefois, est-ce que c'est réellement nécessaire d'avoir une ville connectée ? Est-ce qu'il n'y a pas des impacts qui viennent du numérique ? On parle souvent de l'impact du numérique qui augmente. Ça serait intéressant. Mais on assiste aussi à une course aux projets les plus fous, aux projets les plus innovants. Justement, on parle d'innovation et quand on parle d'innovation, quelquefois, on veut rêver. Et rêver, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être le voyage spatial. On en entend beaucoup parler, plus quelquefois que le réchauffement climatique ou d'autres aspects qui peuvent paraître plus urgents. Mais ça, c'est une prise de position. Mais on peut parler aussi de l'hyperloop. L'hyperloop qui est moins controversé ou moins controversé en apparence, où c'est un train pour se déplacer plus vite, pour aller plus loin. C'est un peu l'affiche du transport du futur. Et c'est présenté un peu comme un concurrent pour quelquefois longue distance ou moyenne distance, pour aller toujours plus vite. Et pour ça, Paul va nous en parler. À vous, Paul.
Oui, donc moi, je vais vous parler du projet de l'Hyperloop que vous avez sans doute déjà entendu. Donc ça pourrait changer carrément votre quotidien. Donc l'Hyperloop, c'est quoi ? C'est un projet de recherche industrielle qui a été proposé en 2013 par Elon Musk. Et c'est un moyen de transport terrestre dans lequel des navettes de voyageurs ou même de marchandises, ou les deux à la fois, se déplacent dans des tubes surélevés. À la manière d'un aérotrain. Donc ces navettes qui seront entraînées par un champ magnétique pourront s'y déplacer à plus de 1200 km/h, ce qui accélérerait forcément le processus de transport et réduirait drastiquement la durée de ces derniers. Et c'est grâce à quoi, du coup, ces tubes, ils seront dépressurisés, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de frottement, donc pas de friction. Et en plus, le but, c'est que les navettes ne touchent ni le sol, ni le plafond. Et donc l'appareil serait en suspension électromagnétique grâce à des électroaimants. Et pour freiner ou ralentir, on peut imaginer qu'en changeant le pôle ou la puissance des électroaimants, ça puisse freiner et du coup ralentir les navettes. Donc tout ça, c'est la promesse initiale du projet. Du coup, l'Hyperloop pourrait devenir le cinquième mode de transport, en plus des bateaux, avions, voitures et trains. Et je peux vous donner quelques exemples de tests, quelques exemples que comment l'Hyperloop va améliorer notre quotidien. Par exemple, pour faire Los Angeles-San Francisco, qui sont distants de plus de 500 km, on pourrait le faire en 30 minutes, à une vitesse de plus de 1100 km/h. Et du point de vue de la France, par exemple pour un Paris-Limoges, 40 minutes grâce à l'Hyperloop, alors que en ce moment c'est plus 1h10 en avion. Et ce que j'aime bien dans le projet, c'est aussi qu'il y a un aspect open source, donc il n'y a aucun brevet déposé. Donc toutes les entreprises peuvent développer leur propre Hyperloop. Et il y a également pas mal de concours qui poussent les étudiants et des startups à innover dans ce domaine. Concernant les premiers tests, il y a la société Virgin Hyperloop qui a lancé ses premiers tests en 2020, en fin d'année 2020, il me semble. Et il y a déjà eu des tests, du coup, avec des passagers lancés à plus de 170 km/h sur 500 mètres. Donc, pour l'instant, on est encore très loin de l'objectif final. Et eux, ils veulent commercialiser leur Hyperloop dès 2030. Donc là, c'est assez simple de se dire que ce n'est pas vraiment réaliste, c'est plus un coût marketing. Et sinon, il y a d'autres tests à plus grande échelle qui sont prévus dans les prochains mois, les prochaines années, etc. Donc concernant les avantages de l'Hyperloop, donc, évidemment, il y a la rapidité, comme montré dans les exemples. Il y a également la simplicité qui serait équivalente au train, donc moins d'attente que pour les avions, c'est plus simple, on peut rentrer dans les navettes facilement, etc. On peut retrouver facilement les conforts dans les navettes. Et il y a également des inconvénients, donc on parle pas assez des inconvénients, mais bon, par exemple pour les constructeurs, Et les entreprises qui innovent là-dedans, faudrait carrément créer le réseau, du coup, donc créer un réseau dédié, donc les tubes surélevés dont je vous parlais en introduction. Et donc pour l'instant, ils sont inexistants. Et du coup, les coûts seraient extrêmement élevés pour les aménagements, enfin pour les aménager dans une aire urbaine, par exemple. On peut également dire que c'est un projet qui est très énergivore. C'est 7 fois plus énergivore qu'un TGV. Donc ça, c'est selon une étude du think tank Léonard, appartenant au groupe Vinci. Il y a quelques défis techniques également à réaliser, donc la linéarité des tubes, que ça soit extrêmement précis, la sécurité, que faire en cas d'urgence ou encore pour évacuer les passagers, je ne sais pas s'il y a un séisme, etc. Pour la mise sous vide des tubes également, donc là il faudrait une énorme quantité d'énergie. Il y a également un problème avec les flux d'air supersoniques. Donc, en fait, dès qu'on va à des vitesses très élevées, il y a l'apparition de flux d'air supersoniques qui génèrent de fortes tensions, turbulences et vibrations. Et du coup, on peut se dire, est-ce que ça peut être une alternative à quelques moyens de transport comme l'avion ou encore le secteur maritime ? Parce que, par exemple, on sait qu'un des avantages aussi par rapport à l'avion, c'est qu'il n'y a pas de nuisance sonore. C'est protégé de la météo, l'hyperloop. Mais comme on l'a vu avant, l'hyperloop est très énergivore. Par rapport à l'avion, c'est 1,34 fois plus. Et même pour aller au-delà des avions, donc parler des transports de marchandises, on sait que c'est impossible. Il y a beaucoup trop de flux de marchandises en ce moment et que ça serait irremplaçable. Donc on peut dire que la manière dont l'hyperloop se développe ressemble davantage à un complément qu'à une nouvelle solution.
Très bien, merci à vous pour cette analyse. Donc si je comprends bien, on nous voit un projet vraiment intéressant, mais quelquefois en nous mettant un peu des paillettes dans les yeux et on n'arrive pas forcément à cerner tous les inconvénients de tout ça.
Exactement.
Alors, pour finir en vitesse, on est un peu pressé par le temps. On vous conseille quelques publications ouvrages pour aller un peu plus loin, notamment les publications de Nicolas Meilland sur France Stratégie, qui est un ingénieur et qui va justement proposer faire une étude sur la voiture, son utilisation, nos habitudes. Et on s'est inspiré de ces rapports pour parler notamment des changements d'habitude pendant le Covid. Aussi, le rapport Pourvoir voler jusqu'en 2050, pour aller un peu plus dans le détail au niveau de tout ce qui est aviation et transition dans le monde de l'aviation. Un livre, Les nouveaux mondes de la mobilité, de Fabien Laurent, pour aller un peu plus loin sur comment on imagine les mobilités au sein de la ville et comment on peut transformer tout ça. Alors l'émission touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour notre dernière émission des Échos de l'innovation. Merci à vous.